Donc, pour préparer l'émission, nous, on s'est beaucoup appuyé sur les travaux du collectif d'action et de recherche sur la transphobie et l'extrême droite, le collectif CARTE, qui a proposé un peu une classification des différents courants transphobes qui existent, en réalisant une carte qui ressemble pas mal aux cartes de la Horde, donc pour situer un petit peu les idées et les différents mouvements transphobes et TERF.
TERF, d'ailleurs, c'est un acronyme.
Tout à fait, c'est l'acronyme de Trans-Exclusionary Radical Feminist. Et d'ailleurs, c'est un terme qui est intéressant parce qu'elles-mêmes ne se décriront jamais comme ça. C'est un terme que nous, on utilise pour les décrire, comme on dirait aux fachos que c'est des fachos. D'ailleurs, ce sont des fachos aussi. Mais voilà, c'est un terme qu'elles n'utilisent pas. Elles préfèrent utiliser le terme. Bon, parfois, elles s'assument transphobes, mais c'est plutôt rare. Généralement, dans le milieu anglophone, elles vont se dire « gender critical ». Donc critique du genre, mais c'est pas trop utilisé en France, où elles vont récupérer et utiliser à ma mauvais dessein le terme de féministe radical. Dans le milieu anglophone, radical féminisme, c'est vraiment devenu une sorte de red flag, de drapeau rouge pour indiquer qu'on est transphobe, alors qu'à la base, c'était pas du tout cette dynamique-là, évidemment. C'est juste un courant du féminisme très important, très intéressant et très multiple et qui était majoritairement pas transphobe. Mais donc voilà, nous, on l'utilise comme ça. Et d'ailleurs, c'est un truc qui se critique aussi, parce qu'il y a un débat chez les antifascistes et dans le mouvement trans pour savoir si ce sont des féministes ou pas, et le débat est encore ouvert, il y a vraiment plusieurs positions là-dessus. Et d'ailleurs, là, dans la carte du collectif CARTE, les camarades ont décidé de pas uniquement se focaliser sur les anciennes féministes qui sont devenues transphobes, comme Marguerite Stern par exemple, mais sûrement le mouvement transphobe en France, en appelant tout le monde de TERF, ce qui est aussi très bien.
Et du coup, je pense qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail des différentes mouvances transphobes qui existent en France. Donc, la plupart de ces mouvances gravitent évidemment plutôt du côté droit de l'échiquier politique, mais c'est important de noter que c'est des rhétoriques qui s'invitent aussi dans des espaces de lutte de gauche. Donc, on pourra passer un petit peu de temps là-dessus. Donc, on a la mouvance identitaire. Donc ceux-là, on les connaît, hein, c'est les fachos traditionnels, ex-génération identitaire, les royalistes, l'UNI. Sur Toulouse, ça va être la cocarde.
Ou Furie française, Argos, etc. Tous les stickers que j'espère vous enlever continuellement.
Furie, qui m'a parlé d'eux il n'y a pas très très longtemps, là, justement, avec la médiathèque.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que sur Toulouse, c'est important de le rappeler. Il y avait la médiathèque Cabanis, la grande médiathèque de Centreville, qui avait voulu inviter des drag queens pour faire un spectacle à des enfants, une lecture de contes de mémoire. Et donc il y avait Furie française, donc les anciens de génération identitaire globalement sur Toulouse, qui avait mis en place une pétition, qui avait mis pression sur la mairie, etc. Et Moudin, qui leur avait entre guillemets donné raison et avait suspendu, enfin, avait décalé la lecture et dit que c'était pas pour les enfants.
C'est une lecture de contes pour enfants, mais c'était interdit aux moins de 18 ans.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Là, on parle beaucoup de cissexisme spécifiquement, mais c'est relié aux autres LGBTI-phobies. Et là, typiquement, c'est les drag queens sont souvent attaquées en tant que représentantes du lobby LGBTI, du lobby trans. Aux États-Unis, typiquement, elles ont été attaquées autant que les personnes trans là-dessus. Et donc, il y a vraiment le côté de, en fait, quand on s'attaque aux droits des personnes trans, on s'attaque aux droits de tout le monde, mais en particulier des autres personnes LGBTI, et aussi aux droits des personnes racisées, parce que c'est souvent les personnes trans racisées ou migrantes qui vont être le plus touchées par les politiques transphobes.
Enfin, on retrouve toujours les mêmes éléments de panique morale, où ça va toujours être autour des enfants, le fait que les trans et les personnes LGBTI vont sexualiser les enfants à outrance, etc. Typiquement, donc, il y avait eu ces tentatives il y a un an, où il y en a plusieurs qui ont malheureusement réussi. Donc il y a eu ce qui s'est passé à Toulouse, mais en fait ça s'est passé dans plein d'autres villes de France, ça paraît important de le souligner. Donc il y a vraiment eu une importation des stratégies de panique morale de l'Angleterre et des États-Unis en France par les fascistes qui ont décidé de reprendre le même principe. Donc dès qu'ils voient passer une lecture de drague pour enfants, ils vont monter au créneau, interpeller les élus locaux, etc., tout faire pour annuler, voire venir sur place pour empêcher l'événement de se tenir, etc. Donc ça va pas forcément tout le temps être la mouvance identitaire, ça peut aussi être des actions qui sont entreprises par les catholiques traditionnalistes, Donc ceux-là qui sont quand même vachement plus connus que les groupuscules d'extrême droite. Donc c'est la Manif pour tous, c'est les différentes organisations qui s'étaient opposées à la PMA, la GPA, etc. Dans les plus vénères, on peut retrouver Civitas qui est une organisation fasciste catho qui, pour vous donner une idée, a des stickers où il est inscrit l'épée des hauts bûchers, enfin on est quand même là-dessus.
Et rappelons pour la petite histoire que Civitas est tellement radical qu'ils ont été exclus de la sorte d'inter-orga qui était la Manif pour tous, parce qu'ils étaient trop radical pour la Manif pour tous elle-même.
Parle qu'en latin, c'est compliqué.
Donc là, c'est pareil, on est sur des acteurs traditionnels réactionnaires qui se mobilisent. Tous ces acteurs communiquent entre eux et ont des liens et parfois se coordonnent.
Donc ensuite, un autre groupe, donc celui qui est le plus classiquement qualifié de TERF, qui ont été rassemblés sous le terme de dissidence féministe dans la brochure de cartes. Donc ça, c'est les personnes dont on parlait juste avant, Marguerite Stern et Dora Mouto, qui vont en être les figures de proue en France.
Pénis de femme. Pourquoi ?
Chaque nuit en secret, on s'introduit dans les toilettes des vraies femmes, comme on dit. On fait pipi debout sous les néons, car c'est notre projet et c'est notre passion. Gargarisme terne et de ramouton, les meufs habitent, nous rametons.
Non mais, moi je pense qu'elles ont quand même le droit d'être des femmes, même si elles n'ont pas de pénis.
Pénis de femme, mon genre, ton drame, regard de trave sur entrejambe, comme le dragon dans la légende, crache des flammes, pénis de femme.
T'as fait l'école des femmes ou quoi ?
Excuse-moi, t'es un garçon ou t'es une table ?
Laissez-nous perdre au foot, battez-nous aux échecs, coupez-nous quand on parle, surtout parlez-nous mal. Payez-nous moins que les mecs, suivez-nous dans la rue, tout comme des vraies filles, parlez-nous de nos culs. Laissez-nous nous haïr, mettez-nous en tempête, faites-nous des bébés, des jumeaux, des triplés. Réarmement démographique, armé de meufs avec des bites, c'est tellement bon pour le passing quand tu me traites d'hystérique. Pénis de femme, mon genre, ton drame, regard de trave sur entrejambe, comme le dragon dans la légende, cracheur des flammes, pénis de femme, mon genre, ton drame, regard de trave sur entrejambe, comme le dragon dans la légende, cracheur des flammes, pénis de femme.
Qui vont être proches d'organisations comme Oser le féminisme, etc. Et qui sont... Alors c'est important de souligner pour les TERF, dans le profil des personnes qui vont porter cette idéologie, souvent ça va être vraiment très concentré sur l'attaque du droit des personnes trans, mais pas que. Elles vont aussi beaucoup attaquer toutes les femmes qui rentrent pas dans leur vision hégémonique de ce qu'est censé être une femme, donc ça va être aussi attaquer les travailleuses du sexe, donc là on peut penser au collectif Abolition Porno Prostitution, qui pareil est un horrible collectif, qui du coup qui cherche à détruire attaquer les droits des travailleurs et travailleuses du sexe, et qui vont aussi beaucoup se mobiliser contre les femmes voilées. Enfin, ça paraît important de le rappeler, c'est des gens qui vont pas attaquer uniquement les femmes trans, donc dans tous les groupes qui gravitent autour de la dissidence féministe. Enfin voilà, c'est des personnes qui se saisissent systématiquement de toutes les polémiques montées en épingle, donc que ce soit autour du voile, autour de l'abaya, elles vont vraiment attaquer toutes les femmes marginalisées dans le système actuel, et généralement c'est quand même plutôt des femmes blanches, et une bonne partie d'entre elles sont lesbiennes aussi, ça paraît important de le préciser.
La caractéristique de ce que les camarades appellent la dissidence féministe, c'est le côté de, c'est pour une partie des organisations qui sont encore vues comme étant à gauche, enfin qui sont soit toujours à gauche, soit qui ont un passé un peu de gauche. Il y a des anciennes du MLF par exemple, donc du mouvement de libération des femmes, qui est une organisation fondatrice du mouvement féministe en France et qui est hyper intéressante. Et il y a une bonne partie de celles qui sont encore vivantes qui sont devenues transphobes. Donc il y a vraiment cette dimension-là.
C'est un féminisme un peu essentialiste.
Ouais, tout à fait. On est sur
biologique, je sais pas trop. Comme...
Ouais, complètement. On est sur un féminisme avec des catégories genrées très déterminées, un truc très biologisant. Parfois aussi un truc un peu mystique. On peut avoir une partie de... l'écoféminisme est très diverse, mais il y a une partie de l'écoféminisme un peu mystique qui peut avoir cette dimension très biologisante aussi, qui peut devenir très facilement transphobe. Et il peut y avoir aussi une partie, effectivement, des lesbiennes, des gays, etc. Il y a des mouvements LGBTI, mais genre sans le T et sans le I, donc le T
LGBT.
De France, c'est ça, et sans le I d'intersexe, et il y avait qui se sont constitués. Bon, on a Résistance Lesbienne en France, par exemple, en Angleterre, il y a vraiment le côté LGB Alliance, pareil, où il y a vraiment cette exclusion des personnes trans. Et d'ailleurs, on peut faire un lien aussi, là, les personnes bisexuelles sont incluses dans le LGB Alliance. Mais souvent, cette exclusion des personnes trans des milieux LGBTI, c'est beaucoup faite aussi avec l'exclusion des personnes bisexuelles. Et il y a toujours un lien fort de fonctionnement entre la biphobie et la transphobie, notamment avec la transphobie spécifique aux personnes non-binaires qu'est l'ambiphobie, parce qu'on va beaucoup renvoyer aux personnes non-binaires. On va partir du principe qu'elles sont bisexuelles, on va pouvoir aussi avoir des propos biphobes, enfin les mêmes types de propos biphobes qu'on a, enfin c'est les mêmes entre les personnes binaires et les personnes bi, de t'as qu'à choisir, des choses comme ça quoi.
D'ailleurs, pour compléter, donc Dora Mouto et Marguerite Stern, les TERF en chef de France, ont des liens complètement assumés avec des personnalités qui sont assumées masculinistes en fait. Donc là, je pense à Thierry Casanova, qui est un mascu complotiste, anti-vax. Il y a aussi des liens avec Julien Rojdi. Oui, ce que j'allais dire, donc elles sont liées avec l'extrême droite. Et en fait, donc c'était des choses qui n'étaient pas forcément hyper assumées au début de leur carrière politique publique. Mais là, en fait, leur bouquin, il est publié aux éditions Magnus, dont la couleur politique ne laisse absolument aucun doute.
Tout à fait, c'est une maison d'édition d'extrême droite. Typiquement, il y a l'auteur de bande dessinée qui sort régulièrement et qui est quand même en extrême droite, dont j'ai oublié le nom, et publié là.
Marceau,
tout à fait.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, il y a Papacito aussi.
Ah oui, ça situe vraiment, donc effectivement, oui.
On n'est pas sur un truc vaguement conservateur, voilà, on est sur du Marceau, on est sur des néo-nazis, quoi.
Oui, puis c'est une maison d'édition qui publie aussi des bouquins de Laurent Oberton, donc si vous ne voyez pas qui est Laurent Oberton...
Un mascu plus,
ouais. Ouais, un mascu plus, et aussi, enfin c'est un suprémaciste blanc qui a un discours très construit sur...
Il grand remplacement.
Il a beaucoup écrit sur le grand remplacement.
Les banlieues, la peur, tu vois, la guerre civile qui se prépare.
Exactement.
Et donc là, on voit bien aussi comment ces anciennes féministes, avec des guillemets, voient où sont leurs alliés. C'est-à-dire que même en tant que féministes, ce sont des très mauvaises féministes. Quoi. De s'allier avec ces gens-là, c'est pas hyper malin pour le droit des femmes, au minimum. Et donc, elles vont aussi s'allier avec le peu de groupes non mixtes que compose, non mixtes femmes que qu'a l'extrême droite, que je pense à Némésis notamment. Il y a déjà eu des échanges entre Némésis et Marguerite Stern, etc.
Donc, sachant que, pour rappel, Némésis, donc, c'est un groupe en mixité femmes qui défend, donc qui est aussi ouvertement raciste et qui défend la suprématie blanche, et en fait porte un discours qui va être de dire les violences sexuelles et les violences patriarcales sont uniquement le fruit de l'immigration, et les mecs blancs n'ont absolument rien à se reprocher là-dedans. Voilà, donc c'est là-dessus qu'elles aussi, elles vont essayer d'organiser des paniques morales, etc.
Et d'ailleurs...
Donc c'est vraiment, pour le coup, c'est des fascistes assumés, quoi, Némésis.
Et avec des modalités d'action qui se ressemblent aussi, parce qu'on est beaucoup, que ce soit Némésis ou les TERF, sur des modalités d'action du coup d'éclat, donc soit de la panique morale avec leur relais médiatique, soit typiquement, là elles l'ont fait moins ces dernières années, mais il y avait une époque, il y a vraiment genre 2-3 ans,
2021
notamment, où elles étaient intervenues lors des manifs féministes et lors des prides, pour faire des coups d'éclat, mais genre avec volontairement l'idée de on passe, on fout le bordel, on se fait filmer en train de se faire agresser par des dangereuses transactivistes et des méchantes gouines. Et
c'était pendant la Pride, c'est ça ?
Tout à fait, là, c'était pendant la Pride.
Ouais. En fait, ce qui s'était passé, elles ont pris la tête du cortège de la Pride à Paris avec banderoles, slogans, etc. En disant, donc avec des pancartes qui avaient des slogans ouvertement transphobes de type mamectomie, donc l'opération qui consiste pour les hommes trans à se faire enlever les seins. Mamectomie égale mutilation, ce genre de choses. En étant très très bruyante, avec beaucoup de mégas, etc. Donc elles ont pris la tête de la manifestation, et en fait leur objectif assumé, c'était de créer un affrontement avec des personnes trans, qu'au moment où elles ont pris la tête de cortège, il y avait déjà, je sais plus, entre 4 ou 5 téléphones qui filmaient autour du cortège pour pouvoir choper tout type d'altercation. Évidemment, c'est ce qui s'est passé. Il y a des militantes trans et des militants trans qui sont remontés en tête du cortège pour leur arracher leurs pancartes, arracher leurs banderoles, etc. Ce qui a évidemment été monté en épingle par les TERF ensuite pour dire regardez, les femmes trans sont en réalité des hommes en jupe qui veulent venir violer les lesbiennes et qui sont toujours hyper violents, blablabla. Là-dessus, on peut vous renvoyer vers la vidéo de Sacha sur XY Media qui avait fait toute une analyse de la stratégie des TERF durant cette Pride et qui est en vrai assez intéressante. Donc ça, c'était la tentative qui a été la plus visible, je pense. Il n'y a pas de nouveau eu trop de d'essais de ce type-là. Voilà.
Tout à fait. Donc, Némésis avait tenté exactement la même chose, mais sur des mots d'ordre islamophobes, notamment. Et donc, on est voilà, sur des mêmes modalités d'action. My sweetheart's piano is rat-filled, and mine is infested with bugs. The music we make is unnatural, but it sounds just like falling in love. This butch, she makes me go weak in the knees. Or else she will think of
Et pour revenir sur les différents types de Pokémon transphobes qui existent aujourd'hui en France, la catégorie dont on n'a pas encore parlé, c'est donc celle que le collectif CART appelle les pseudosciences des enfants. Les collectifs qui sont au centre de l'actualité aujourd'hui, donc on en a déjà parlé, c'est l'Observatoire de la Petite Sirène et le collectif Hypomonie. Donc le collectif Hypomonie, c'est un collectif de parents inquiets, on va dire le même fonctionnement que les collectifs parents vigilants qui avaient été lancés.
Comme les voisins vigilants ou...
Exactement. Mais c'est vraiment l'idée, ça avait été lancé par Zemmour qui s'inquiétait des dérives wokistes à l'école.
On a dit le mot, mince.
Ça, c'est un collectif qui fait essentiellement de la traduction de textes TERF qui viennent d'Angleterre ou des États-Unis. Donc, comme d'habitude, donc, eux, c'est les collectifs, on va dire... en vrai, les plus efficaces en ce qui concerne la création de panique morale autour des personnes trans aujourd'hui, parce que c'est des collectifs qui se concentrent exclusivement sur la question des mineurs trans et qui vont beaucoup moins parler des adultes trans. Bah, en fait, c'est ce qui marche le mieux, c'est la stratégie qui a le mieux fonctionné dans les autres pays qui sont, on va dire, plus avancés dans la bataille politique autour des droits des trans. Et le collectif Hypomonie et l'Observatoire de la Petite Sirène sont cul et chemise. L'Observatoire de la Petite Sirène, pour peut-être développer un petit peu plus, une organisation pseudo-scientifique qui est tenue par, donc dedans il y a des psychologues, des psychanalystes, notamment du courant lacanien, des pédopsychiatres, etc., qui en général n'interagissent absolument jamais avec des personnes trans, et c'est des personnes qui vont aussi être membres d'autres collectifs, donc que ce soit des collectifs de psychanalystes, le Collège de psychiatrie de France, etc. Donc c'est un collectif qui a été fondé en 2021, donc qui est quand même très très actif depuis sa création, qui a publié plusieurs rapports. Le collectif se revendique comme étant apolitique et laïque, ce qui en général est un bon red flag pour dire « je suis fasciste et je viens de l'extrême droite ». Et en fait, à un tel point que une des membres, il me semble que... alors c'est pas une des fondatrices, mais une des membres importantes de l'Observatoire de la Petite Sirène est aussi présente à l'Observatoire du décolonialisme, dont l'objectif, encore une fois, est de créer des paniques morales autour du discours décolonial, de dire que c'est des satanés wokistes, etc. Mais où, là pour le coup, ça va pas se concentrer sur les personnes trans, mais sur les personnes racisées, et en particulier les musulmans et musulmanes.
Et notamment, il y avait vraiment ce qui est intéressant avec cette catégorie, parce que déjà, effectivement, c'est malheureusement ceux qui sont les plus efficaces, c'est les ceux qui se montrent le moins visiblement. C'est-à-dire, tous les clous dont on a parlé, c'est des gens qui sont visiblement politisés, quoi, et qui parlent visiblement de politique. Eux, ils se font passer pour des scientifiques. Et aussi, on voit le lien là très fort entre, enfin, les institutions qui reproduisent le cissexisme, où on va voir la psychiatrie et la famille et la domination adulte qui vont beaucoup jouer de c'est les enfants qui contrôlent qu'on doit contrôler et on doit les contrôler par les outils de la psychiatrie. Et donc clairement on voit bien ces institutions comme des institutions de contrôle ici. Et donc effectivement l'Observatoire de la Petite Sirène et l'Hypomonie se construisent vraiment comme des trucs de lobbying, comme ça a pu fonctionner en Angleterre et aux États-Unis, où c'est beaucoup aussi, ça a commencé comme ça.
Le vrai lobbying, il est là,
tout à fait, exactement. Donc clairement, typiquement, donc le rapport dont on parlait au début qui a fini sur la proposition de loi des Républicains a été donc écrit en collaboration avec cette organisation.
Ouais, alors même plus qu'en collaboration, en fait, parmi les 60 et quelques experts qui ont été interrogés pour la rédaction du rapport, en fait, pendant toutes les auditions, il y avait les deux membres fondatrices de l'Observatoire de la Petite Sirène qui étaient présentes. Donc en autre chose, dans les autres trucs que cet observatoire a fait, ce sont les gens qui ont rédigé le livre La Fabrique de l'Enfant Transgenre. Évidemment, vu que c'est beaucoup des membres de l'institution psychiatrique, ils vont aussi beaucoup mettre en avant cet argument que « Ah oui, mais il y a beaucoup de personnes trans, qui se disent trans, qui sont aussi autistes, et en fait, c'est pas des personnes trans, en fait, c'est des personnes folles qu'il faut soigner, etc. » Et du coup, qui vont beaucoup passer par ce discours de dire que une personne folle ne peut pas transitionner, en fait, c'est pas possible, genre, si tu es folle, tu ne peux pas décider par toi-même, donc dans les mécanismes d'infantilisation classique autour des personnes folles. On peut aussi le voir comme un collectif qui... essaye de lutter pour que le système de santé garde un contrôle total et absolu sur les parcours de transition, des personnes trans. Ah oui, aussi, chose importante, c'est que historiquement, l'Observatoire de la Petite Sirène est proche de militants royalistes, de militants anti-avortement, etc. Malheureusement, ils font beaucoup de bruit. Et ça paraît important de préciser aussi, il y a toujours dans les rhétoriques TERF et transphobe, et c'est une rhétorique qui est même généralisable à l'ensemble du mouvement fasciste, de se victimiser, de dire qu'on peut plus rien dire, qu'on peut parler de nulle part, alors que l'Observatoire de la Petite Sirène a été invité sur le plateau de M6, a publié des livres, passe dans plein d'émissions radio, plein d'émissions télé, et en vérité, largement plus que les personnes trans, en fait. Et ça paraît aussi important de le préciser, c'est des gens qui sont très très présents dans tous les différents espaces médiatiques.
Bah, typiquement, pour le rapport, pour l'audition des rapports, comme on l'a dit, en fait, c'est principalement des personnes cis, médecins, et des organisations de ce type qui ont été écoutées, et les organisations trans, comme on l'avait dit, ont été peu invitées, et quand elles ont été invitées, n'ont pas été écoutées. Donc on vous renvoie encore une fois vers le communiqué de Outran sur son audition, et on peut vous renvoyer aussi vers le site Petite Sirène, voilà, qui est un site justement qui avait été créé par plusieurs organisations trans, notamment par Outrance dont je viens de parler, pour débunker un à un les arguments de l'Observatoire de la Petite Sirène, pour montrer ses liens avec l'extrême droite, etc.
En théorie, pas d'hierarchie, je reste anarchiste, mais je suis trop archi fan de toi. Amour pluriel, pas vraiment de loi, pas vraiment de choix. Si je devais en faire un, ce serait toi. Je suis polyam, mais quand même plus amoureux toi. T'es plus magnifique dans cet apocalypse. Et tant magnifia que ça qui nous anime. Pour toi, je lancerais des briques sur les flics et les bourgeois. Ah 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 ah. Ni Dieu, ni maître, mais s'il te plaît, soulève-moi. Jamais à genoux devant aucun roi, aucun meneur, sauf si c'est toi.
L'un des derniers pôles que décrivent les camarades de Descartes sur le mouvement TERF, c'est la nébuleuse éco-essentialiste, et qui, elle, est très présente à gauche en plus. Donc on a déjà parlé un petit peu de la nébuleuse éco-féministe. Il y a vraiment cette dimension de... C'est des crues qui sont quasiment que positionnées à gauche, là, dans cette sphère-là éco-essentialiste. Donc on va avoir des crues type ce que les camarades appellent les éco-réacs. Donc on va avoir le journal La Décroissance, par exemple, qui est un journal qui est principalement axé sur Lyon. C'est montré comme un truc de gauche un peu anti-industriel, et puis on le lit, c'est un torchon réactionnaire assez incroyable, et où vraiment il y avait, enfin il y a régulièrement des genre on est même plus sur de discours un peu transphobe caché, on est sur de la moquerie des personnes trans assez violente. Et on va avoir ce que les camarades appellent les pseudo-écoféministes, donc qui sont beaucoup en lien avec la dissidence féministe notamment, et donc des groupes comme Deep Green Resistance ou Floraison, dans des trucs qui viennent des mouvements féministes radicaux de l'écologie profonde notamment, et qui ont des discours transphobes très clairs, des liens, et qui ont beaucoup joué pour l'importation des discours TERF dans le milieu français, enfin dans la gauche française, notamment l'extrême gauche française.
Du coup, pour compléter un petit peu, d'où vient cet argumentaire? Parce que, bon, ça peut, à première vue, ça peut sembler curieux qu'il y ait des discours transphobes et TERF qui s'ancrent dans le mouvement écolo. Donc ça part des mouvements anti-civilisationnels, dit anti-civ parce que c'est quand même vachement plus simple à prononcer, et anti-industriels, qui vont faire toute une critique, donc c'est souvent des gens anti-vax, qui vont faire toute une critique du système de santé et en fait considérer que les personnes trans sont complètement dégénérées parce qu'on s'injecte des produits, parce qu'on va faire des opérations chirurgicales et on serait une dégénérescence moderne, produit de Babylone. Donc c'est des discours qui ont commencé à arriver en France en 2014-2015, notamment par le biais d'un sombre personnage, encore une fois, j'ai nommé Nicolas Cazot. Donc je pense que c'est intéressant si on en parle un petit peu. Le type qui a les éditions... Alors je sais plus s'il publie ou s'il a les éditions libres.
Je crois qu'il fait que publier, mais il est peut-être dans l'équipe éditoriale.
Et donc c'est quelqu'un qui a notamment fait la traduction du livre... comment la non-violence protège l'État, qui se place de manière assumée du côté anarch, quoi, et malgré tout qui va avoir ses positions hyper réac et hyper transphobes, et c'est quelque chose qui se retrouve aussi aux États-Unis, même s'il y a eu des tentatives de monter des antennes en France du collectif Deep Green Resistance. Donc le collectif Deep Green Resistance, c'est un collectif écolo qui prône le sabotage, l'organisation armée d'une résistance écolo, etc., qui est donc en fait dans des discours qui vont être hyper virilistes, avec une approche très essentialiste des rôles genrés, etc. Et donc ils sont vraiment... Au bout d'un moment, ils ont fini par se concentrer exclusivement sur les personnes trans, mais ils sont aussi très violents à l'endroit des personnes toxicomanes, des travailleurs et travailleuses du sexe.
Oui, mais il y a ce côté de ces des mouvements, là typiquement l'écologie profonde, les mouvements d'antifascisation anti-industrielle, qui sont assez multiples, et c'est des nébuleuses. En vrai, la plupart des organisations, des journaux de ces structures sont très souvent réactionnaires. Typiquement, l'un des principaux représentants du mouvement anti-industriel à l'extrême gauche française, c'est Pièces et Main-d'œuvre, qui est vraiment un torchon réactionnaire assez extraordinaire et qui est vraiment dans une dynamique de hyper masculiniste, etc. Il y a beaucoup de brochures sur InfoKiosque pour les décrier.
J'y pense juste pour préciser, du coup, Nicolas Cazot est littéralement fondateur des éditions libres.
Ok. Mais donc voilà, il y a ce truc-là de même à gauche, on peut avoir ces gens-là qui sont dans nos luttes et qu'on vire pas forcément ou qu'on a beaucoup de difficultés à virer.
Ouais, en fait, c'est notamment des profils de personnes qu'on peut croiser sur les luttes écolo, en fait. Je pense notamment aux ZAD, mais où c'est arrivé que ces groupes prennent de la place, quoi. Bon, contextuel, il y a eu des rapports de force, etc. Mais à titre personnel, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de camarades qui sont vigilants et vigilantes vis-à-vis de la présence de ces personnes-là dans le mouvement écolo.
Et d'ailleurs, pour l'une des manières de lutter contre ces tendances-là, qu'il peut y avoir potentiellement dans le mouvement écolo, c'est de bouquiner collectivement le livre Écofascisme d'Antoine Dubiot, qui pointe justement ces pentes glissantes dans le discours écolo qui peuvent mener à un discours réactionnaire.
Quand même, pour préciser, c'est un bouquin qui peut être un peu galère à lire, et il y a une brochure qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui est peut-être un peu plus facile d'accès, qui s'appelle « Le naufrage réactionnaire du mouvement anti-industriel, histoire de 10 ans », qui est pareil, une super brochure qui synthétise bien toutes ces idées-là.